Chapitre 4.
Retour à l'Alamanda.
17h07.
La capitaine Aja Purvi peste tout en écrasant la pédale de frein de la Peugeot 206. Juste avant le tunnel du Cap de la Marianne, l'une des deux voies de la route littorale est bordée par une rangée interminable de cônes oranges, en travaux. L'entrée du tunnel ressemble à une immense bouche noire, aspirant avec une lenteur exaspérante un collier de tôle multicolore. La 206 roule encore au pas quelques dizaines de mètres, puis s'immobilise derrière un 4x4, à la même hauteur qu'un pick-up rouge. Aja consulte l'horloge à côté du volant, énervée. Combien de temps lui faudra-t-il pour parcourir les 8 kilomètres qui la séparent de l'hôtel à l'Alamanda ? 30 minutes ? Une heure ? Davantage ? Aja, furieuse, observe les vagues de l'océan Indien frapper le piton rocheux qui, paraît-il, ressemble au profil de Marianne. Mouais. Aja n'a jamais reconnu l'icône républicaine dans ce bloc de basalte qu'on aurait mieux fait d'exploser à la dynamite plutôt que de dépenser des milliards pour la route des Tamarins, quelques centaines de mètres plus haut, qui défigure le paysage et qui ne réglera rien pour la circulation sur l'île. Il entretiendra juste les Réunionnais dans l'illusion que l'on peut toujours immatriculer plus de voitures, 30 000 supplémentaires chaque année, jusqu'à l'infini. Il faut pourtant se rendre à l'évidence. La Réunion est une montagne qui a poussé dans l'océan. Presque toute la population se tasse au bord de la mer et tous se déplacent en bagnole sur l'étroite bande à peu près plate entre l'océan et la base des volcans. Tournent en rond, aussi libres que des protons dans un cyclotron. Un ralentisseur de particules. Les Réunionnais testent le concept. Aja coupe le contact, résigné. Le type à côté, dans son pick-up, la regarde avec insistance. Un mètre au-dessus d'elle. Un cafre dont le bras sort d'un t-shirt blanc et pend à la portière par la vitre ouverte. Cela aussi énerve Aja. Si elle avait pris le jumper de la gendarmerie, ou ne serait-ce qu'un gyrophare à coller sur le toit de sa 206, elle aurait avalé la route du littoral en quelques minutes. Les voitures se seraient écartées devant elle, comme une mer s'ouvre devant le prophète, y compris ce cafre qui tord le cou pour avoir une vue plus plongeante sur ses seins. Inconsciemment, Aja referme les pans de son chemisier. Parfois, ces types lui donnent envie de porter le voile, rien que pour les faire chier. Par 30 degrés, un tchador ou une casquette après tout, ou un képi. Le directeur de l'Alamanda, Armand Zutor, a insisté, lourdement.
Une intervention discrète, hein, Aja. Tu ne vas surtout pas effrayer les touristes.
Ce gros blanc, comme on appelle ici les métropolitains restés riches depuis la colonisation, ce gros blanc de directeur d'hôtel la tutoie sous prétexte qu'il l'a connue toute petite, quand elle suivait ses parents à l'Alamanda. Entre affection et humiliation, la frontière est parfois mince. Aja n'est pas dupe.
C'est une affaire privée, tu comprends, Aja. Pas une enquête officielle. Martial Bélion ne souhaite pas porter plainte. Tu passes et tu le rassures à propos de sa femme. Je te le demande comme un service.
Un service? Incognito? Ben voyons. Comment refuser? Le tourisme, c'est 80% de l'emploi de Saint-Gilles. L'hôtellerie, c'est 200 emplois. Une trentaine rien que pour l'Alamanda. D'après Armand Zutor, il n'y a pas de quoi paniquer. Il s'agit d'une affaire banale. Un couple de Parisiens dont la femme est partie avec sa valise et dont le mari s'est retrouvé tout seul comme un con au bord de la piscine avec une gosse de 6 ans sur les bras.
Plutôt cocasse, hein, Aja. Si c'était arrivé à n'importe quel créole, on se serait contenté d'en rigoler. Même à Zoreille, mais un touriste. Et puis, le mari refuse l'évidence. Le petit oiseau qui s'est envolé, il a insisté pour qu'on prévienne les flics, pour qu'ils rappliquent tout de suite. Tu comprends ?
Aja comprend. La capitaine de la gendarmerie de Saint-Paul a donc rappliqué comme un pompier à la première quinte de toux du piton de la Fournaise. Tête baissée dans la circulation de fin d'après-midi. Point mort. Plus personne n'entre et ne sort du tunnel désormais. Aja soupire et ouvre la vitre d'une main nerveuse, côté conducteur. Il fait lourd, pas de vent. Un temps à faire fondre les pneus. Un air de Sega, la musique réunionnaise, dégouline sur la file immobile de voitures, crachée par les haut-parleurs de l'autoradio du pick-up. Le cafre accompagne de ses doigts bagués le rythme de la musique créole, attendant sans doute que l'animateur de Radio Freedom égrène les kilomètres de bouchons sur l'île, tout en précisant, pour remonter le moral local, qu'il n'existe pas d'itinéraire bis ici, ou que les bisons futés ne sont pas une des espèces endémiques sur l'île. Aja rejette la tête en arrière sur le siège conducteur. Envie de laisser la bagnole là et de finir à pied. Le cafre, lui, semble s'en foutre du bouchon, apprécié même. Il a de la musique, du soleil, la mer, une fille à mater, comme s'il n'avait que ça à branler de sa journée. Martial Bélion se tient face à Aja Purvi. Il est très pâle, note la capitaine de gendarmerie. C'est elle qui a mariné une heure sous le soleil, les fesses collées au fauteuil en sky de la 206, et c'est pourtant ce touriste qui sue à grosses gouttes malgré la climatisation du hall de l'hôtel. Dès qu'elle est entrée, il s'est levé de son fauteuil en plastique, imitation rotin.
Capitaine Purvi ?
Il a gardé la bouche ouverte, comme s'il cherchait à mieux respirer, exactement comme les poissons exotiques dans l'aquarium derrière lui.
Je m'excuse de vous avoir dérangé, capitaine. Je me doute que pour la gendarmerie, une telle disparition peut apparaître très, très banale. Mais comment vous dire, pardonnez-moi, capitaine, je cherche mes mots. Derrière les apparences, il y a...
Aja adopte une pose compatissante pendant que Martial essuie son front trempé avec un pan de sa chemise ouverte. En une seule phrase, Bélion s'est déjà excusé deux fois. Elle trouve étrange ce sentiment de culpabilité. D'autant plus qu'il contraste avec son allure de beau gosse, ses pectoraux impeccables en transparence sous sa chemise blanc du Nil. Pourquoi se sentir à ce point coupable ? Bélion aspire une bouffée d'air à battre le record du monde d'apnée, puis se lance d'un coup.
« Capitaine, je vais m'y prendre autrement, ce sera plus simple. Je ne suis pas stupide. Je me doute que tout le monde va penser que ma femme m'a planté là. Bien entendu, les tentations ne manquent pas sur l'île. » « Écoutez-moi, capitaine, ce n'est pas le cas. Elle ne serait pas partie ainsi, pas sans sa fille, pas sans... »
Aja interrompt soudain les hésitations de Martial. « D'accord, monsieur Bélion, inutile de vous justifier. Nous allons faire tout ce qui est possible. Vous avez de la chance, Armand Zutor est aux petits soins pour ses clients. Ici, la gendarmerie fait partie des services proposés par l'hôtel. Assurez leur sécurité, vous comprenez ? Je vais enquêter sur la disparition de votre femme, je vous rassure, avec toute la discrétion nécessaire.
Vous souhaitez que...
La sueur colle le lin de la chemise à la peau de Martial, transparente. Aja sourit tout en détournant le regard vers le chirurgien jaune qui joue les caïds dans l'aquarium. Quelque chose dans l'attitude de ce touriste paniqué continue de l'intriguer. Écoutez-moi, monsieur Bélion. Il est trop tard aujourd'hui, mais vous devrez passer dès demain à la brigade de Saint-Gilles pour signaler officiellement la disparition de votre femme. On vous demandera des papiers d'identité également et un certain nombre de renseignements administratifs. D'ici là, je vais voir ce que je peux faire. Auriez-vous une photo de votre femme ?
Bien entendu.
La photo passe. Aja détaille l'impeccable ovale du visage de Liane Bélion, la cascade de cheveux blonds, les fines dents blanches. Une sang pure. Elle comprend qu'un tel brin de fille puisse susciter bien des appétits au cœur de ce laboratoire du métissage qu'est la Réunion. Aja se pince les lèvres, l'air compréhensif. Merci, monsieur Bélion. Armand Zutor m'a déjà relaté l'essentiel des événements. Restez dans le hall ou le jardin de l'hôtel. Buvez un rhum ou une bière, cela vous fera du bien. Mais ne remontez pas tout de suite dans la chambre. Ne touchez à rien, je vous tiens au courant dans quelques minutes. 17h46.
Gamin observe Aja contourner la piscine et s'approcher du bar. La capitaine de gendarmerie pose la photo sur le comptoir d'un geste sec.
Une belle fille comme ça dans l'hôtel ? T'as dû la repérer, Gabin ?
Le barman prend le temps de répondre. D'ordinaire, le regard des clients qui se tiennent devant son comptoir dévie derrière lui, en direction de l'impressionnante collection de rhums arrangés qui occupe trois étagères dans des bonbonnières aussi colorées que des filtres dans la vitrine d'un apothicaire. Aja, elle, le fixe droit dans les yeux. Le rhum, elle s'en fout. Comme la plupart des Arabes, les Réunionnais musulmans d'origine indienne, elle ne boit pas d'alcool. Ce n'est pourtant pas faute de lui avoir proposé, juste pour goûter, lorsqu'elle était ado et qu'elle attendait pendant des heures au bord de la piscine son père et sa mère. avant le drame. Puisqu'Aja le dévisage, Gabin ne se prive pas en retour. La chef de la gendarmerie de Saint-Gilles est une fleur assez rare sur l'île. Une zarabe métissée créole. Gabin possède une opinion assez précise sur les arabes. Le métissage est peu fréquent chez eux. Ils préfèrent généralement ne partager ni leur gène, ni leur compte en banque. Discret et efficace. 25 000 membres, 13 mosquées, aucun niqab, pas de voile ni autre signe ostentatoire. Et toutes les entreprises de tissus, de bagnoles et de quincailleries de l'île. Aja est zarabe par son père, créole par sa mère. Peut-on la considérer comme une jolie fille ? Se demande Gabin. Pas facile de trancher. Parfois, le métissage compose des chefs-d'œuvre qui vous saisissent par leur beauté universelle. Mais le plus souvent, la nature teste des trucs, genre Aja. Un assemblage peu probable de longs cheveux noirs, de regards bleus en amande surmontés de sourcils noirs et épais qui se rejoignent presque au-dessus des yeux. Un joli potentiel, analyse Gabin. Mais pour donner une note esthétique, il faudrait qu'Aja sourie, parfois. Il faudrait la voir en maillot de bain aussi. Pas gagné. Aja est une fille des Hauts de Saint-Paul, d'un des immeubles sordides de Plateau Caillou. Il l'a connue à l'âge du collège. Déjà, à l'époque, Aja se comportait comme un margouillat dans une classe d'endormis, un lézard dans une classe de caméléons. Doué, comme il en pousse une tous les 10 ans, du genre à peine bronzé, à n'avoir jamais fichu les pieds dans l'eau du lagon, à bosser, bosser, bosser plus que les autres. Aja est parti étudier en métropole, comme beaucoup d'autres. Fac de droit à Panthéon-Assas, puis école de gendarmerie chez les Bretons, à Châteaulin. Major de promotion. Mais contrairement aux autres surdoués de l'île, Aja est revenue. Elle le regrette peut-être maintenant. Les places sont chères pour les métisses qui veulent grimper les échelons de l'administration régalienne sur l'île. On l'a enterrée à la brigade territoriale autonome de Saint-Gilles-les-Bains. Sauf que la petite est nerveuse, ambitieuse, cogneuse. Gabin l'a vue à l'œuvre, un petit margouillat capable de grimper très haut. La soif de vengeance comme motivation supplémentaire. Les oreilles, ces Français métropolitains installés à La Réunion, les oreilles de Saint-Denis risquent d'avoir du mal à la museler longtemps. Aja agite la photo devant son nez, impatiente.
Alors, Gabin ?
Alors quoi ? Je crois pas avoir entendu la sirène, Aja. Tu fais des heures supplémentaires au black ?
Faut croire. Tu connais les flics ? On se déplace pas pour une créole qui se fait tabasser par son mari, mais une touriste qui prend le maquis.
Gabin sourit de toutes ses dents blanches. T'apprends la diplomatie, Aja, c'est bien. Aja ne répond rien, comme si elle méditait, puis insiste à nouveau.
Mais alors, tu sais quoi sur la tantine ? Tu sais quoi sur la petite amie ?
Presque rien, ma belle. Tu sais bien, je reste planté derrière mon bar comme un fil à eau. J'ai juste vu la fille passer devant les transats, faire tomber le maillot, s'envelopper dans une serviette, puis pchit. Va demander à Naïvo à l'accueil. Tu peux pas le rater, hein. C'est un nouveau, un malgache, avec une tête de lémurien qui aurait enfilé une cravate. C'est lui qui a ouvert la porte de sa chambre à Bélion.
Aja entre dans le hall. Aucune trace de Martial Bélion. Il a dû suivre ses conseils, se faire discret, s'éloigner, la laisser enquêter. Elle esquisse soudain un sourire. Gabin ne mentait pas. C'est effectivement un lémurien qui tient l'accueil. Naïvo est assis derrière son bureau. Les yeux marrons, ronds comme des billes. Des poils clairs partout sur le visage. Une couronne de cheveux gris et raides d'une oreille à l'autre. Et une cravate rayée blanche et noire, comme s'il s'était enroulé la queue autour du cou. Une grosse peluche lémurienne sensible au charme des blondes. La photo de Liane agitée devant ses yeux globuleux le rend intarissable.
Oui, capitaine Purvi, j'ai vu monter Liane Bélion dans sa chambre cet après-midi. Oui, son mari est venu me chercher dans le hall pour lui ouvrir la chambre 38. Combien de temps après ? Une heure, je dirais. Ce pauvre type avait l'air inquiet, paniqué même, comme un malheureux dans ses tongs et son short de bain. C'est moi, capitaine, qui lui ai ouvert la chambre 38. Il y avait, comment dire, du désordre, des traces de lutte, ou de sieste entre mari et femme. Si vous voyez ce que je veux dire, capitaine.
Une des binoisettes disparaît sous la forêt poivre et sel d'un sourcil. Ce qui, pense Aja, doit correspondre à un clin d'œil chez les Lémuriens.
Sauf que toutes les fringues de la fille avaient disparu. Vous pouvez me croire, hein, j'ai l'œil pour ça. Liane Bellion avait fait sa valise.
Les poils d'un œil se ferment à nouveau, façon velcro.
Mais le plus important, ce n'est pas ça, capitaine. Le plus important, c'est qu'il y avait des traces de... comment dire ?
Aja plisse les yeux. Elle sent d'instinct qu'elle ne va pas aimer la suite. Le Lémurien se redresse encore.
Des taches qui ressemblaient sacrément à des taches de sang.
Aja encaisse, imperturbable. On va monter si cela ne vous dérange pas. Vous allez m'ouvrir. Il monte. Deuxième étage. Aja laisse juste glisser le regard vers les baies vitrées et observe les clients qui discutent autour de la piscine sous le ciel rouge, cocktail à la main, le dos nu des femmes, les volutes de fumée, les gamins qui s'éclaboussent dans l'eau fluorescente que des spots sous-marins colorent successivement en bleu, rouge et vert. Soirée tropicale, calme plat, ambiance de paradis. Armand Zutor avait raison, les gyrophares auraient fait désordre. Naivo, le Lémurien, fait tourner les clés dans sa main et avance vers la chambre 38. Il se donne des allures de gardien de zoo qui ouvrirait avec résignation la grille de la cage du gorille disparu.
« Capitaine, je peux vous parler ?»
La voix semble surgir d'un haut-parleur invisible. Aja se retourne et découvre dans son dos une vieille femme accrochée à son balai brosse. La créole qui s'est rapprochée à pas de loup du bout du couloir répète.
« Tu es bien la capitaine Purvis, la petite Aja, la fille de Layla et Rahim. »
Aja ne sait pas ce qui l'énerve le plus. La référence à son enfance de la part d'une femme qu'elle ne reconnaît pas ou le rythme indolent des paroles de la femme de ménage. Elle acquiesce vaguement de la tête.
« Je vois souvent ta mère, tu sais, ma petite Aja. » Au marché couvert de Saint-Paul, presque un matin sur deux, on parle du passé, comme de vieille.
Aja se fend d'un sourire. « Je vous écoute. » Le Lémurien n'a pas bougé, la créole non plus, bloquée.
« Seule », finit-elle par préciser.
« D'accord », accepte Aja en se tournant vers Naivo. Le Lémurien écarte des pupilles indignées, dresse les poils des yeux et des tempes, puis s'éloigne à contre-cœur jusqu'à l'extrémité du couloir. La créole au balai semble chercher ses mots. Aja attend quelques secondes, puis anticipe. Vous êtes ici depuis quand ?
30 ans et 6 mois, ma petite Aja.
Aja soupire. Je parle de cet après-midi, madame. Je voulais dire ici, dans ce couloir. Ève-Marie sourit, prend le temps de consulter sa montre, puis répond.
4 heures et 30 minutes.
C'est beaucoup, non ?
Disons que d'habitude... C'est plus calme à mon étage.
Aja contemple le plancher. Les murs, les tableaux, les vitres. Tout est aussi propre que dans un couloir d'hôpital. Le prénom de la femme de ménage est brodé sur sa blouse. Ève-Marie, vous m'avez l'air d'une femme organisée et précise. Dites-moi exactement qui est passé dans votre couloir cet après-midi. La vieille créole prend un temps infini pour poser le balai brosse contre le mur.
« Eh bien, Naivo et le mari sont montés vers 16 heures pour ouvrir la chambre 38. La chambre était vide et... »
Ève-Marie réajuste le foulard dans ses cheveux crépus. Mèche par mèche, Aja récupère la parole pour accélérer le rythme. « Ève-Marie, nous sommes d'accord. Martial Bellion est monté à 16 heures. Liane Bellion était montée 1 heure plus tôt, vers 15 heures. » C'est ce qui s'est passé entre-temps qui m'intéresse. Si vous n'avez pas quitté votre couloir, vous avez forcément vu Madame Bellion sortir de sa chambre. » Ève-Marie a repéré sur la vitre la plus proche une invisible trace qu'elle essuie avec un coin de torchon turquoise. Une éternité après, elle répond.
« Du monde, entre 15 et 16 heures, ça j'en ai vu passer dans mon couloir. Mais pas la blonde. »
Coup de massue derrière la tête. « Comment cela ? hurle presque Aja. Liane Bellion n'est pas ressortie de sa chambre ? Ève-Marie maîtrise ses effets. Elle plie lentement en quatre le torchon. Elle devrait écrire des polars. Le mari est remonté. Une heure après, je suis au courant. Non, pas une heure après, bien avant. Je dirais un quart d'heure après que sa femme est montée. Nouveau coup de massue. Pleine poitrine. Vous en êtes certaine ? Oh oui, ma petite Aja, tu peux me faire confiance. Personne ne peut passer dans mon couloir sans que je le remarque. Je n'en doute pas, Ève-Marie. Continuez. Ève-Marie jette un œil méfiant en Aïvo. Le lémurien tourne en rond devant l'ascenseur. La créole baisse un peu la voix. Il est entré dans la chambre. Sur le coup, j'ai pensé qu'il se payait un peu de bon temps avec sa femme. C'était l'heure de la sieste. Tu vois ce que je veux dire, ma petite Aja. La gamine était en bas avec les amis. Le mari est ressorti quelques minutes plus tard de la chambre. 10 minutes maximum. Il est venu vers moi. Il m'a demandé un service. Aja observe son reflet dans la fenêtre. Son regard bleu se délave dans les lueurs fluorescentes de la piscine, 4 mètres plus bas. Un service. Ève-Marie met un temps infini à se retourner vers le chariot qui contient sa poubelle, les produits détergents, les brosses. Oui, un service. Il m'a demandé s'il pouvait emprunter mon chariot. Pas celui-ci, le gros, celui dans lequel je mets le linge, les draps, les serviettes. Vide. Il est entré avec dans la chambre, il est ressorti 2 minutes plus tard. Il a pris l'ascenseur, puis hop, disparu. J'ai retrouvé mon chariot en bas, au niveau moins un, près du parking. Ça peut te sembler bizarre, ma petite Aja, mais ici, on ne refuse rien aux clients. La main fébrile de la capitaine prend appui sur le rebord de la fenêtre. Le chariot de linge ? Il vous a dit pour quelle foutue raison il en avait besoin ? Tu sais, ici, ma petite Aja, on ne pose pas non plus de questions aux clients. La langue n'a point les os. La langue n'a pas d'os. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Aja se mord les lèvres. Quelqu'un d'autre est entré ? Sorti ? Dans le couloir pendant toute l'après-midi ? Personne. Tu peux me croire, Aja. La catiche du 38 n'est jamais ressortie de sa chambre. Pourquoi ne pas croire Ève-Marie, en effet ? Votre chariot à linge, il est grand comment ? Ève-Marie semble réfléchir. Pour te donner une idée, il y a marqué dessus qu'il peut contenir 80 kilos de linge. Je vois où tu veux en venir, ma petite Aja. Entre nous, je serais surprise si la petite blonde en maillot en pesait plus de la moitié. Pendant que le regard d'Ève-Marie se tourne vers d'autres invisibles poussières, Aja fixe le jardin de l'hôtel. Au maximum, une 20aine de personnes conversent, boivent, attendent le coucher de soleil. Aja repère Martial Bellion sous un réverbère. Il se tient sur une chaise haute. Une petite fille de 6 ans est assise sur ses genoux. Sa femme n'est jamais ressortie de la chambre. Naïvo a parlé de traces de lutte dans l'appartement, de taches de sang. L'hypothèse rassurante d'une escapade amoureuse de la belle s'est singulièrement assombrie. Le lémurien a dû repérer que la conversation était terminée. Il s'avance dans le couloir, clé à la main. Il va falloir lui expliquer, ainsi qu'au directeur de l'hôtel, que le programme a changé. Armand Zutor ne va pas aimer. Il y a toutes les chances pour que les affaires dispersées dans la chambre 38 soit autant de pièces à conviction d'une scène de crime. Aja baisse les yeux vers sa montre. Dans l'idéal, il faudrait venir relever les empreintes, les traces de sang, l'ADN et tout le reste du protocole, dès ce soir. Reste à convaincre Christo de se déplacer.